Bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être là pour le deuxième dimanche en présentiel et de pouvoir se voir. C'est aussi un honneur pour moi de pouvoir vous apporter le message ce matin. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte du message, les deux derniers messages que j'ai été emmené à faire étaient sur Galates. Au chapitre 5. Donc juste pour vous rappeler le contexte un peu général, pendant tout le livre de Galates, Paul nous enseigne la liberté que nous avons en Christ, la liberté des œuvres. Et pendant les trois premiers chapitres, même les quatre premiers chapitres, il a des arguments de son témoignage, il a des arguments biographiques, mais aussi des arguments théologiques. Et là, à partir du chapitre 5, il nous propose ce que c'est cette liberté en Christ et ce qui vient remplacer la loi. Donc aujourd'hui, pour le troisième message, on va être dans Galates 5, versets 16 à 25. Donc c'est un passage qui est plutôt connu, en tout cas la partie sur les fruits de l'esprit. Et c'est vraiment un beau passage. Donc je vous invite à ouvrir vos livres, vos Bibles, dans Galates chapitre 5. Du verset 16 au verset 25. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alors dans ce passage, je pense que vous avez remarqué, entre autres, il y a deux listes. La première, c'est une liste des œuvres de la chair. Et c'est une liste qui fait un peu suer, qui donne pas du tout envie, qui devrait nous faire fuir. L'inconduite, l'impureté, l'idolâtrie... l'ivrognerie, les partis pris, les divisions. Et l'autre, c'est une liste de choses auxquelles on aspire, qui sont tellement belles. L'amour, la paix, la bonté, la bienveillance, etc. En théorie, en tout cas, ces deux listes, si on avait le choix, en théorie, on n'irait que vers les fruits de l'esprit. On pratiquerait jamais ces autres choses. En tout cas, en théorie. On aimerait être vu aussi pour et reconnu pour les fruits de l'esprit et non pour les mauvaises choses. On aimerait être reconnu pour ça. Mais est-ce que j'aspire réellement à la patience? Est-ce qu'en réalité, dans ma vie de chaque instant, est-ce que j'aspire vraiment à la patience? Oui, j'y aspire, mais pourtant, dès que Dieu me répond pas tout de suite à une de mes demandes, j'aime pas ça. Je peux être emmené à chercher des solutions par moi-même. Dès qu'il répond pas dans mon timing, j'aime pas vivre la patience. Est-ce que je recherche vraiment la bienveillance et la douceur? Pourtant, Jesse peut en témoigner. Quand on a des discordes sur des sujets théologiques, quand on discute et on n'est pas d'accord, même des sujets de deuxième degré, j'ai du mal à être bienveillant envers elle, d'être patient et d'être bienveillant envers moi-même aussi. J'ai envie de ces choses, mais dans la réalité, est-ce que je le vis vraiment? J'ai tendance à me braquer, à me mettre en colère et à tomber dans de vaines querelles, donc plutôt dans l'autre liste. Est-ce que j'aspire réellement à la maîtrise de moi? Bien sûr, mais pourtant, quand je suis devant un table de dessert, j'ai toujours envie de prendre le plus gros morceau. Et c'est pas une blague. C'est un problème. J'ai quelque chose en moi qui me touche, qui me pousse vers l'excès. J'ai une recherche d'excès. Et pourtant, dans ma vie, j'ai envie de plaire à Dieu et de vivre pour lui. Mais la réalité, c'est que nous avons une chair avec des désirs mauvaises. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette chair est morte. Nous ne sommes plus esclaves de cette chair. Et nous sommes appelés à une vie dans l'esprit. Donc on va retourner dans le texte, au verset 16. « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Nous avons une réalité, et cette réalité, c'est notre chair. Elle est là. Ses désirs sont là. On a une tendance au péché. C'est quelque chose de normal. Et quand je dis normal, c'est pas normal. C'est pas normal dans le sens, c'est acceptable par Dieu. Non, c'est pas acceptable. Mais c'est la norme. C'est nous sommes pécheurs. Paul ne dit pas, marchez selon l'esprit et vous n'aurez plus de désirs de la chair. Il dit pas ça. Il dit pas que les désirs de la chair vont disparaître. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Il dit qu'on sera plus esclave de ces désirs, on sera plus obligé de les accomplir. C'est un vrai problème si nous ne voyons pas dans nos vies les tendances de notre chair. C'est important de les reconnaître. C'est important de reconnaître qu'ils sont là. Et quand il parle de ses œuvres de la chair au verset 19, on va le lire. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Elles sont évidentes, elles sont visibles, elles sont manifestes dans notre vie. On sait ce qu'elles sont. Il parle d'œuvres de la chair. De nouveau, on tombe dans le fait de vivre sous la loi. Si on vit par les œuvres, on vit sous la loi. C'est le fait de reprendre notre vie entre nos mains. C'est prétendre qu'on sait mieux que Dieu. Il y a aussi dans ce texte vraiment une idée de perte de contrôle et de dérive, d'excès, de vivre des choses bonnes que Dieu nous a données, comme la sexualité, comme la nourriture, comme les relations humaines, et de les vivre d'une manière qui n'est pas acceptable, qui n'est pas comme ça a été prévu. On va pas tous les regarder, mais l'idolâtrie, l'inconduite, l'impureté, la débauche, il y a plein de manières dont les commentateurs ont pu diviser ces textes, mais moi j'aimerais bien les diviser en trois parties. Là, il parle de certaines œuvres, certains péchés, certaines tendances qui vont à l'encontre de Dieu. Bien sûr, elles vont tous à l'encontre de Dieu, mais certains qui, plus précisément, sont l'idolâtrie, la magie, c'est le fait de se lier, d'avoir des pratiques sexuelles qui sont dérivantes et se lier à autre chose, se donner à autre chose qu'à Dieu. Et ensuite, toute une liste d'œuvres qui sont dans les relations humaines et que souvent on retrouve même dans l'Église. C'est ces rivalités, ces hostilités, ces divisions, les hérésies, la discorde. Et ensuite, il y a aussi, il parle aussi d'œuvres qui sont des péchés contre notre propre corps. L'ivrognerie, les orgies, c'est par rapport à la nourriture, c'est manger beaucoup, 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 beaucoup. Elles sont manifestes dans nos vies, on les voit bien, et elles ont des conséquences. Et Paul nous le rappelle. Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc on a notre chair qui est là et qui nous donne une tendance, qui nous invite, qui nous appelle. Vis comme ça, vis comme ça. Hop, pardon. Mais nous ne sommes pas obligés de les mettre en pratique. Et la mise en pratique, c'est ça qui mène à la mort. Jésus nous a accepté, il a accepté de nous déclarer justes, malgré le fait qu'on soit pécheur, malgré le fait que fondamentalement, on soit pécheur. Et donc Paul nous rappelle ici la gravité du péché, qu'elle est mortelle, qu'elle est inacceptable. Et c'est le fait de mettre en pratique ses désirs qui mène à la mort. On peut penser au verset de Philippiens 2 aussi, un écrit de Paul. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez avec votre salut, avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Il y a une réalité dans nos vies, le péché, qui est grave et qui est inacceptable à Dieu. Et donc, il y a ce côté travail. On doit travailler à vivre bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que la chair, ces désirs qui font partie de la vie, qui sont contraignantes, qui font partie de notre quotidien, en tout cas sous le ciel. Je pense qu'ici, personne ne dirait qu'ils ne sont pas sous la contrainte, que ça n'influence pas sa vie, le péché. Mais elles ne sont pas asservissante, elle ne nous rend pas en esclavage. On n'est pas obligé de mettre en pratique ces désirs que notre corps, auxquels nous soumet notre corps. Versets 17 et 18, Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc là, on est devant cette collision dans nos propres vies entre la chair qui nous appelle et entre l'esprit qui nous appelle. Et oui, souvent, on ne fait pas ce qu'on voudrait. Nous, on ne fait pas ce qu'on voudrait. Nous, on prend les mauvaises décisions. Mais le verset d'après, « Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Donc on voit deux choses là. Nous péchons, c'est la chair qui pêche en nous, qui nous appelle, qui nous donne ses désirs. Et nous ne faisons pas ce que voudrions. Mais si on est conduit par l'esprit, donc pas conduit par nous-mêmes, mais conduit par l'esprit de Dieu, on n'est plus sous la loi. On n'est plus dans les œuvres. C'est un paradigme qui change. Comme la justification, donc c'est le fait que par la mort du Christ, ceux qui sont en lui sont déclarés justes. Donc comme la justification, la sanctification, donc c'est le fait d'avoir une vie qui ressemble de plus en plus à la vie de Christ, c'est une vie qui vit les fruits de l'esprit. et qui ne met plus en pratique les œuvres et les désirs de la chair, elle n'est pas l'œuvre de l'homme. Donc tout comme la justification, c'est Jésus qui l'a fait pour nous. C'est pas nous qui nous justifions. La sanctification non plus n'est pas l'œuvre de l'homme. Nous ne faisons pas ce que nous voudrions. Nous sommes appelés à marcher, à être conduits par l'Esprit, selon l'Esprit, dans l'Esprit. Et nous avons, en Christ, passé, c'est déjà fait, nous avons crucifié la chair avec ses passions. Donc au verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Nous ne sommes pas esclaves de ses désirs. Parfois dans ma vie, mais on entend tellement souvent, par exemple, une personne qui a des problèmes avec l'alcool, par exemple. Il dit, la prochaine fois, je ferai pas ça. Dans notre vie, parfois, on a cette impression que déjà le désir de pécher, ça nous a déjà vaincu en quelque sorte. On se dit, on est déjà mauvais parce que on a une envie qui nous tiraille vers quelque chose de pas bon. Et donc, on baisse les bras et on arrête. Mais non, ça, c'est pas mourir à soi-même. Mourir à soi-même, c'est avoir ce désir qui vient en nous et dire non, ça, ce n'est pas moi. Moi, je suis mort à ça. Je suis pas esclave à ça. Je suis pas obligé. C'est pas parce que mon cher me dit que j'ai envie de faire ça. Je suis pas obligé. Une image, ça peut être une personne qui conduit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà conduit en étant hyper fatigué? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est hyper dangereux. Et on s'en rend compte. Si on s'endort, c'est fini. Et avec le péché, c'est un peu pareil. On a cette chose qui nous envahit, qui est plus fort que nous, qui vient de l'intérieur de nous et qui nous dit « Endors-toi, endors-toi ». Tu as besoin de dormir. Et donc et la mort est là, juste là, Paul nous l'a dit. Le péché, ça mène à la mort. Mais on a un choix. Quand on conduit, il y a deux solutions que je vois. Soit on laisse quelqu'un d'autre conduire. Donc c'est ce que nous encourage à faire Paul. On laisse la place de conducteur. Soit on part pas quand on est trop fatigué. Et quand dans nos vies, on sait qu'il y a des choses, des moments, des contextes, des habitudes qui nous mènent à nos désirs, qui nous mettent dans une situation où notre désir, on sait qu'elle va être là, elle va être forte, on peut déjà stopper avant, on n'est pas obligé d'aller. Et c'est pour ça que c'est important de connaître nos désirs mauvais, de savoir quelles sont nos faiblesses, quelles sont ces choses où notre chair nous peut prendre le dessus. Mais même si on est parti, même si on conduit, étant fatigué, on peut encore s'arrêter. Quand on a cette vague de fatigue qui vient, on n'est pas encore mort, on n'est pas encore pécheur. On a ces désirs qui viennent, mais on n'est plus obligé de pratiquer. On est libre. Notre péché est mort. Dans Romains 6, au verset 11, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Il y a une question d'identité qui est hyper importante là. Parce que quand on a ces mauvais désirs, on a tellement tendance à dire « J'ai envie de ça, donc je suis. J'ai envie de boire, donc je suis un ivrogne. Je vais boire, du coup. » Mais notre identité n'est pas dans la chair. Notre identité n'est pas dans ce désir mauvais qui peut monter en nous. Elle est en Christ. Et Christ a crucifié ses péchés sur la croix. Et c'est incroyable parce que on est invité à une vie par l'Esprit. Et on est invité à marcher par l'Esprit. C'est intéressant parce que, on va lire au verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est amour, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. » Il y a un parallèle, ou plutôt une distension assez frappante entre l'idée de fruit, les fruits de l'esprit, et l'autre métaphore, donc c'est une métaphore, et l'autre métaphore qui est les œuvres de la chair. On est en face de deux méthodologies complètement différentes. Les œuvres, c'est quoi? C'est une production, c'est une chaîne de production. C'est le fait de mettre par nos propres forces, on met deux choses ensemble, on fabrique un téléphone, ça c'est une œuvre, ou on creuse un trou, ça c'est une œuvre. Mais un fruit, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. C'est quelque chose de vivant. Bien sûr, on peut préparer le jardin. Ici, c'est incroyable, on est dans un jardin et on regarde, on peut voir des fruits là, ces belles arbres. Elles ont été protégées petit. On peut travailler sur le contexte, sur la plantation, on peut veiller à ce qu'ils ont un peu d'eau, qu'ils sont un peu protégés du soleil. Mais c'est pas nous qui faisons pousser les fruits. Une œuvre, oui, c'est nous qui faisons. On fabrique le téléphone, on installe les chaises. C'est une œuvre, c'est une production humaine. Mais les fruits de l'esprit, j'en ai besoin. Les fruits de l'esprit, c'est pas nous qui œuvrons en nous-mêmes. On peut œuvrer au contexte, mais c'est pas nous qui donnons le fruit. Une autre chose intéressante, c'est donc le fruit n'est pas dû à notre travail, c'est pas de notre fait. Autre chose différente, c'est que une œuvre, c'est quelque chose de tout de suite, de direct, action-réaction. Mais un fruit, c'est quelque chose qui prend du temps. Cet arbre, elle n'est pas apparue comme ça. Elle a grandi malgré les orages, elle a grandi malgré les saisons. Il y a bien sûr des saisons qui sont moins favorables, mais elle a poussé, elle a grandi. On la voit pas grandir. On la voit quand on check, quoi, quand on vérifie, on la voit dans la durée grandir. Mais c'est pas forcément quand on la mesure, on voit qu'elle a grandi, mais quand on est devant l'arbre, on voit pas que ça pousse là en ce moment même. On le voit pas bouger, grandir. Donc il y a quelque chose de hyper différent entre un fruit de l'esprit et une œuvre de la chair. Une œuvre de la chair est toujours mauvaise. Si c'est une œuvre devant la loi ou une œuvre devant ou de faire des mauvaises choses, c'est pas bon. Et quand on regarde ces fruits, il y a différentes façons de les regarder, mais on peut dire que on avait vu que la loi se résumait à l'amour. Ben on pourrait dire que ces fruits, que finalement elles sont tout amour. Ou on pourrait dire donc peut-être des différentes facettes de l'amour. Mais j'ai lu quelques commentaires qui disaient que le mot fruit, c'est au singulier, c'est pas pluriel. Et c'était bien intentionnel de la part de Paul. Le fruit de l'esprit, ces fruits, avec ce fruit avec ses différentes facettes, c'est quelque chose qui n'est pas seul. Parce qu'on peut, être tendre sans aimer. On peut être tendre de manière très égoïste. Je peux être tendre avec Jessie pour espérer obtenir quelque chose d'elle. Tout seul, la tendresse, c'est pas forcément un fruit de l'esprit. Mais la tendresse dans l'amour, la tendresse bienveillante, la tendresse qui aime et qui veut le bien de Jessie, ça c'est un fruit de l'esprit. Et on pourrait trouver des exemples de tous ces fruits de l'esprit. On pourrait trouver des exemples pour chacun d'entre elles. J'ai peut-être un autre. Hop. la paix. On peut rechercher la paix dans une relation, mais pour des mauvaises raisons. Parce que on a peur d'adresser un sujet qui a besoin d'être adressé. Donc cette paix-là, le fait de pas adresser des choses, la paix sans amour, c'est un œuvre, c'est pas un fruit de l'esprit. Donc bien sûr, on doit tendre à ces fruits de l'esprit, mais ces fruits de l'esprit, c'est pas quelque chose de superficiel. Il faut pas que ça peut pas être des œuvres. C'est vraiment le fruit de l'esprit. C'est le travail de Dieu en nous. Donc nous, on doit peaufiner ce jardin, on doit donner les meilleures conditions, on doit donner l'opportunité à l'esprit de vivre en nous. Donc si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ça nous ramène au tout premier verset, marcher par l'esprit. C'est quoi cette distinction? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Je pense que, en tant que chrétien, nous vivons par l'esprit. Nous mettons notre vie, elle provient du Christ. C'est la justification, le fait qu'on puisse vivre, elle vient de Christ. Mais l'idée de marcher, c'est d'aller de l'avant, c'est une idée de mouvement, c'est une idée de poursuivre, mais là c'est pas poursuivre, c'est part. Donc c'est l'esprit qui est notre moteur. C'est pas les œuvres, ces passions qui nous appellent, qui nous tirent, ou même qui parfois viennent en nous et qui cherchent à être moteur de nos vies, de nos actions. C'est l'esprit de Dieu qui habite en nous. Et c'est par sa force que nous devons agir. Nous avons notre vie en lui, mais ne restons pas statiques. Ne restons pas en place, marchons avec lui. Avançons. N'ayons pas peur de vivre avec lui, de marcher. Parce que, et je pense que c'est le point focal pour citer notre frère qui est maintenant avec Christ. Le point focal et la vraie bonne nouvelle, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'Esprit du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, il vit en chacun d'entre nous. Il s'est associé à chacun d'entre nous. On a l'opportunité, chaque jour, chaque instant, de marcher et de vivre avec lui. Et tellement souvent, et je me mets vraiment moi le premier, je cherche à vivre plutôt par mes désirs, alors que je pourrais vivre par et avec l'Esprit de Dieu. Je pourrais vivre par l'Esprit de Dieu. On a cette invitation, il est déjà là. Il est en nous, et j'aimerais vous laisser avec ce verset de 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Quand on se regarde dans une glace, même si on voit quelqu'un qui, avec des désirs mauvaises, ses désirs, elles sont mortes, nous voyons une personne, un enfant de Dieu, qui est uni à l'Esprit Saint Tout-Puissant et qui peut marcher avec lui. Et nous marchons de gloire en gloire. On n'a plus besoin d'être couvert le voile du temple. Il est là avec nous. On vit avec lui et par lui. Donc pour conclure, il ne faut pas négliger la réalité de nos désirs. La chair est là. Pour l'instant, on n'a pas nos nouveaux corps. La chair est là, c'est une réalité. Ne la négligeons pas. Mais rappelons-nous, nous sommes libres de ces désirs. Nous ne sommes pas enchaînés. et vivons et marchons par l'Esprit.